aujourd'hui à un envahisseur qui a terrorisé l'Europe il y a plus de 1500 ans, le roi des Huns, Attila. Quand Attila prenait des villes, c'était pour détruire plutôt que pour piller. Et quand il tuait, c'était pour laisser des milliers de cadavres en spectacle aux vivants. Jean Nandès, moine du 5e siècle. D'histoire. Les évêques d'Occident l'appelaient le fléau de Dieu et disaient que partout où il passait, l'herbe ne repoussait plus. Avec une telle réputation, on comprend qu'Attila incarne encore le mal absolu, 15 siècles après sa mort et la plus formidable des invasions barbares qui ont précipité l'Europe dans le Moyen Âge. C'était en 451. Quand, au bord du Danube, le roi des Huns avait rassemblé une armée comme on n'en avait jamais vu depuis les Perses et comme on n'en verra jamais plus jusqu'aux guerres napoléoniennes. 500 000 hommes venus de toute l'Europe centrale et orientale, des Ostrogoths, des Gépides, des Alains avec leurs énormes lances, des Gélons armés d'une faux et vêtus de casaques en peau humaine, des Rugiens de la Baltique, mais aussi et surtout des Huns, ces cavaliers redoutables venus d'Orient un siècle plus tôt, et qui allait faire craquer les frontières d'un empire romain vermoulu et dont Attila allait précipiter la chute.
Spartiate, Scythe, Macédonien, Picte, Gaulois, Breton, Celte, Franc, Juif, Égyptien. La liste des peuples vaincus est sans fin. Pourquoi les Huns seraient-ils différents?
Parce que ce sont des Huns. Ils ont vaincu les armées romaines en plusieurs occasions.
Les troupes de l'Est de l'Empire, ne sais-tu pas qu'à l'Ouest elles sont plus fortes?
Nous n'avons aucune troupe à plusieurs jours de marche de la frontière de Pannonie.
Est-ce si sérieux que cela, Félix? Ce n'est pas d'hier que les Huns là.
Ils ont pénétré notre territoire. Et quand ils s'apercevront que nous ne résistons pas, que nous ne sommes pas invulnérables, que se passera-t-il?
Marc Villon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien et auteur d'un roman, Les Aubes barbares, dont l'action se situe précisément en Europe au moment de l'invasion des Huns et de leur chef Attila, le fléau de Dieu, hein, comme on l'appelait, et qui a, il faut dire, dans les manuels d'histoire, une réputation détestable, alors que dans certains pays, la Hongrie, l'ancienne Pannonie, au contraire, c'est un héros national.
Alors chez nous, c'est un envahisseur, et c'est un envahisseur qui a été, dont les exploits ont été décrits par les religieux. Et comme les Huns étaient un peuple dont on ne connaissait pas la religion, qui étaient des païens, même plutôt des animistes, évidemment, les moines ont noirci le portrait d'Attila. Mais en Hongrie, il est un peu considéré comme le père de la nation. Il a sa statue et il personnifie un peu le début de l'âme hongroise.
Il y a des enfants hongrois qui portent le prénom d'Attila.
Absolument. Il y a eu aussi un opéra de Verdi. Ça dépend finalement de
des points de vue, oui, parce que nous évidemment puis, on se souvient de Paris menacé par Attila, défendu par Sainte-Geneviève, des massacres des Huns, mais c'est vrai que dans d'autres pays forcément c'est un héros national. Cela dit, sa réputation vient aussi du peuple dont il était le roi, Marc Villan, et qui était les Huns, hein. Alors vraiment ils avaient une réputation épouvantable, peut-être aussi faisait-il peur parce qu'ils venaient de très loin. D'où viennent d'ailleurs les Huns, à partir de quand commence-t-on à parler d'eux?
Alors, on commence à parler d'eux au IVe siècle, vers le milieu du IVe siècle. C'est un tribun romain qui commence à parler d'eux. Il les a jamais vus, mais il fait toujours une description de ces êtres sauvages. On peut les faire venir de l'extrême-orient, mais si vous voulez, c'est une migration qu'il est difficile de définir avec précision.
C'est un peuple nomade. Hein,
c'est un peuple nomade. C'est peut-être aussi un ensemble de peuples nomades, puisque c'est plus une fédération. Vous avez les Huns dits blancs, vous avez les Huns noirs. Dans cet ensemble de tribus, vous avez des tribus plus importantes que d'autres. C'est plutôt une espèce de fédération de peuples nomades. Et les nomades font peur à tout le monde, puisque on est derrière le limès romain, on a des peuples évidemment gallo-romains, romains, mais des peuples sédentarisés, y compris ces fameux Germains qui ont traversé le Rhin en 406, d'ailleurs poussés en partie par ces Huns.
Oui, parce que, bon, eux aussi avaient une réputation épouvantable, on disait qu'ils étaient vêtus de peau de rat, armés de sabres à deux tranchants et des arcs surtout, et puis alors qu'ils ne quittaient jamais leur cheval, d'ailleurs ils se nourrissaient, disait-on, avec le sang de leurs chevaux.
Alors, on exagère un peu. C'est vrai, puisque on est face à un peuple nomade qui, en fait, amène son garde-manger avec lui. Et son garde-manger, ce sont des troupeaux immenses de chevaux, parce qu'il faut des chevaux de rechange pour la guerre. Et d'ailleurs, chose étrange, les Huns qui vivent sur leurs chevaux, et ça c'est vrai, n'ont pas beaucoup de respect pour cet animal. Alors que les Romains, qui sont de très mauvais cavaliers, en général, ont un respect fantastique. Et avec ces chevaux, vous avez des troupeaux de bœufs. Donc, ce qui explique aussi la légende, l'herbe ne repousse pas. Quand un troupeau de plus de 100 000 têtes suit une armée, effectivement, l'herbe ne va pas repousser de sitôt.
Vous disiez à l'instant, Marc Villan, qu'ils avaient repoussé devant eux d'autres peuples, parce que ils n'ont pas participé aux premières invasions, les Huns. Mais en fait, ils avaient tellement peur que tous les peuples d'Europe orientale, à l'extérieur des frontières des limesses de l'Empire romain, se sont précipités à l'intérieur, fuyant les Huns, et c'est comme ça que sont arrivés les Visigoths, les Alains, les Ostrogoths, etc., poussés en fait par les Huns, qui vont s'installer justement dans ce qu'on appelait la Pannonie, c'est-à-dire l'équivalent, je crois, de la Hongrie et de la Roumanie à peu près.
Tout à fait.
Qui deviennent un peuple sédentaire à ce moment-là.
Oui, alors ce sont les derniers arrivés dans ces grandes invasions. Et donc ils commencent par pousser les Alains, qui sont aussi un peuple nomade, un peuple de pasteurs. Puis ils poussent les Ostrogoths et ils terminent sur les Visigoths. Et tous ces peuples s'ébranlent jusqu'à ce que d'ailleurs les Visigoths demandent à l'Empire romain de les abriter. Ce qui aboutira d'ailleurs en 410 à la prise de Rome par les Visigoths. Donc, ce sont les derniers arrivés, on ne les comprend pas bien, ils ont un physique, je dirais, turco-mongol, une langue qui n'est pas écrite, ils ne sont pas du tout chrétiens, ils inspirent la peur. Et alors, même les autres barbares.
Alors, ils s'installent, donc, ils deviennent sédentaires dans cette Pannonie, à peu près, donc, la Hongrie, où le père d'Attila, qui s'appelait, je crois, Mudziuk, a fondé un royaume en soumettant tous les peuples d'Europe centrale autour des Huns, dont Attila devenait le souverain en 445.
Attila, roi des Huns, seigneur de toutes les terres, de l'océan glacé à la mer Noire, depuis les rives du Rhin jusqu'aux montagnes de l'Est. Notre grand roi vous permet de vous approcher.
Je suis le seigneur Knut, roi des Finnois.
Nous t'accueillons en ami et en loyal sujet.
Je suis le seigneur Belloc, roi des Parthes. Je te demande de régler une dispute entre moi-même et le seigneur Omar, roi des Scythes.
À propos de quoi ?
Le tracé des frontières entre nos deux nations.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Attila et cette musique qui peut paraître surprenante puisqu'elle est du 19e siècle. Mais il s'agit d'un extrait du Attila de Verdi, le cœur des Huns, des Ostrogoths, qui accueille Attila sur la scène en criant, je traduis, vive Attila, dieu de la guerre, nous voici à genoux. C'est vrai que quand on se retrouvait en face d'Attila, Marc Villan, il fallait ne jamais le regarder en face et se mettre à genoux.
Oui, Attila est un chef qui aime la mise en scène. Par exemple, on raconte que dans les banquets, il est sur une estrade, ses généraux sont vêtus d'or, d'argent, mangent dans de la vaisselle en argent, lui mange dans de la vaisselle en bois. C'est quelqu'un qui a sans doute la volonté de conduire son peuple et qui utilise tous les subterfuges pour se placer dans une position différente.
Et là, avec une cour, il était très influencé. C'était en fait un homme et un peuple et un royaume beaucoup plus, beaucoup plus raffiné qu'on le dit souvent, qu'on le croit souvent, et très influencé par les Romains avant de les attaquer. Il s'en était inspiré, d'ailleurs, Marc Villon, je crois même que Attila avait vécu à Rome.
Alors, c'est vrai, Attila a été envoyé dans sa jeunesse à Rome. Il a été envoyé à Rome et à Ravenne pendant 3 ans. Dès avant cela, il avait un précepteur latin, il parlait le grec, et dans sa cour, il y a un certain nombre de notables qui sont des généraux grecs et romains,
donc
qui trahissent leur propre peuple. Et qui voit dans Attila finalement une espèce de renouveau de ces deux empires, l'empire romain d'Orient et l'empire d'Occident, qui se déchirent, qui sont en proie des luttes internes. Donc il n'est vraiment pas un barbare, c'est quelqu'un qui est lettré.
Parmi les gens qui vivaient à la cour d'Attila, donc en Pannonie, il y avait même des personnages étonnants. Il y avait Oreste, qui était presque son bras droit pratiquement, qui était romain, qui est même le père de celui qui sera le dernier empereur romain, Romulus Augustule. Et alors il y avait, ça c'est encore plus étonnant, il y avait Marc Villon, celui qui sera son adversaire, celui qui va le battre plus tard au champ catalonique, Aïssius, qui était otage, je crois, à la cour d'Attila.
Oui, alors Aïssius est aussi, comme Attila, un Pannonien, mais c'est un Pannonien romain. Son père commande la Pannonie romaine, en fait, la Hongrie divisée entre Pannonie des Huns et Pannonie romaine. Et comme gage, puisque à un moment, les Huns d'Attila vont être les gardiens de la frontière orientale de l'Empire, et qu'ils vont même recevoir un tribut pour ça, comme gage de fidélité, Aetius est envoyé à la cour de Rhoas, l'oncle d'Attila. Attila est encore un enfant, il a 10 ans. Et Aetius va vivre, lui, là-bas pendant 3 ans. Il va apprendre le Hun, il va apprendre à se battre contre les Huns. Et il va avoir une véritable relation très forte avec Attila.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, vous parlez d'Aetius ou Aetius, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Attila était l'allié des Romains même, ça va assez loin, puisqu'il défendait les Romains contre d'autres barbares, comme les Visigoths, etc. Donc Rome comptait vraiment beaucoup sur lui.
Alors, Attila était chargé de garder la frontière, et comme il avait une véritable amitié pour Aetius, il a même prêté de forts contingents de guerriers à Aetius pour réprimer des révoltes, notamment les révoltes gauloises contre l'impôt, qu'on appelait les Bagaudes, pour empêcher les Visigoths de prendre trop d'importance. Et il a même prêté des contingents à Aetius dans la tentative de coup d'État de Jean l'Usurpateur. Donc il y avait une véritable capillarité entre les Huns et l'Empire romain, beaucoup plus que ce qu'on raconte. Et il y avait une véritable histoire d'amitié, ou moins de confiance, plus tard de rivalité, entre Aetius et Attila.
Donc auxiliaire, les Huns, auxiliaire des Romains, ça c'est une chose qu'on oublie parfois, au point d'ailleurs de ne jamais menacer Rome, puisque une fois que son royaume est devenu extrêmement important, Attila ne s'en prend pas aux Romains et à Rome, mais il s'en prend à l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire en fait à Constantinople, dont l'empereur Théodose avait demandé de l'aide à son homologue romain, l'empereur Valentinien.
Attila ! J'entends ce nom partout. Je croyais en avoir fini avec lui il y a longtemps.
Je vais te décevoir, Valentinien. Il est toujours là, et plus fort que jamais.
Empereur Théodose, régnant sur l'Est à son bien-aimé neveu, Valentinien, empereur de l'Ouest, te demande d'envoyer tout de suite de l'aide. Nous sommes envahis par les Huns. Ils sont envahis.
C'est très exagéré. Les murs de Constantinople sont loin d'être fragiles.
Mais des dizaines de villes plus petites sont tombées. Les provinces sont toutes paralysées. Attila demande 3000 livres d'or pour daigner retirer ses troupes.
Si Constantinople venait à tomber, Rome serait la dernière ville que ce fou d'Attila n'aurait pas conquise.
Alors Attila ne prendra jamais Constantinople. Marc Villon, qui était effectivement défendu par d'énormes murailles qu'avait construit justement Théodose, l'empereur d'Orient. Il faut rappeler que justement, vous le disiez tout à l'heure, l'Empire romain s'est divisé en deux déjà depuis plusieurs années.
L'Empire est trop grand. Il nécessite une attention tous les instants parce que les barbares ne cessent de franchir le limès. Et depuis le 3e siècle, à part l'intermède de Constantin, mais il est divisé en deux pour que les deux empereurs puisse gérer cet empire au plus près.
Alors en fait, Attila ne cherche pas à conquérir ou à prendre Constantinople. On l'a entendu, il demande, et d'ailleurs c'est l'objectif de pratiquement toutes ses conquêtes, ce qu'il veut, c'est un tribut.
Oui, on peut penser qu'il veut deux choses. Il veut d'abord que les Huns soient reconnus en tant que peuple et en tant qu'empire. Et puis, il reste un pillard, il reste un semi-nomade, et il ne cesse de faire augmenter ses tribus. Il remporte des victoires, et à un moment, il s'arrête devant les murs de Constantinople, et il recule, parce qu'il est chargé d'or, parce que ses guerriers n'ont plus faim, et aussi parce que son empire est très fragile. Il faut savoir que le rapport en termes de population entre les Huns et l'Empire romain, ce serait à peu près celui de la Belgique actuelle par rapport à l'Europe.
Allez.
Voilà. Donc, c'est un chef de guerre formidable, c'est un diplomate rusé, c'est quelqu'un qui a une préscience du destin des Huns, mais il n'a pas véritablement les moyens, malgré la bravoure de ses hommes, de ses ambitions.
Et pourtant, Marc Villan, alors voilà qu'en 451, sans jamais avoir osé s'en prendre à l'Empire romain d'Occident, à Rome, voilà qu'en 451, il amasse une énorme armée, mais considérable, bon, je dis 500 000, mais c'est entre 300 et 500 000, de toute façon, à l'époque, et même longtemps après Attila, on n'aura jamais autant d'hommes, on verra jamais autant d'hommes se rassembler pour une conquête, et il se rassemble, il pénètre, il passe le Rhin en 451. Qu'est-ce qui prend Attila pour s'attaquer enfin, si je puis dire, à l'ouest, alors à l'occident? Pourquoi?
Alors, effectivement, c'est une question assez compliquée.
Parce qu'on dit qu'il avait, c'est à l'appel de la femme de l'empereur romain de l'empereur romain d'Occident, qui s'appelait Honoria, qui était furieuse contre son frère, qui s'appelle Valentinien. C'est elle qui lui dit, mais venez, et puis, qui lui propose même de l'épouser.
Alors, elle, 15 ans avant, lui avait envoyé un anneau, comme proposition de mariage. Et à ce moment-là, Attila, comme prétexte, dit à l'empereur Valentinien III, oui, je suis d'accord pour épouser ta sœur. Alors, la dite sœur, entre-temps, avait eu des tas d'aventures, elle était prise. L'autre prétexte, c'est les Visigoths. Les Visigoths qui étaient d'anciens sujets des Huns, puisque c'était des peuples qui nomadisaient ou qui étaient présents dans la même zone et qui sont rentrés dans l'Empire et qui ont créé un royaume très prospère. On peut penser aussi qu'il y avait un accord tacite entre le Romain Aetius et le Hun Attila et que cet accord tacite de non-agression a été rompu parce que Aetius n'a pas fait les gestes qu'il fallait vis-à-vis d'Attila.
Alors ça va se traduire donc par une invasion, c'est sans doute la plus spectaculaire, la plus impressionnante, la plus redoutable, la plus violente aussi, Marc Villan, puisque il s'attaque tout de suite à la Gaule, hein, il passe le Rhin, il entre en Gaule, il ravage, il massacre toute la population de la ville de Metz, on décapite l'évêque de Reims, on s'arrête devant Paris. Hein, ça c'est l'épisode le plus connu, mais c'est peut-être pas le plus important de la vie d'Attila. D'ailleurs c'est quand brusquement Sainte-Geneviève mobilise les Parisiens pour tenir tête pour faire face à Attila.
Alors, c'est pas le plus important, mais c'est un épisode symbolique. Amusant, oui. Et symbolique. Parce que Sainte-Geneviève est élue de Paris, elle a des fonctions municipales, et Geneviève a un raisonnement stratégique très simple et très intelligent, dans cette période où tout le monde a peur. C'est que si les Parisiens fuient Paris, ils vont se retrouver sur les voies romaines, et il est clair qu'une armée de cavaliers va les rattraper, va les tailler en pièces. Alors que Paris, l'île de la Cité, dans ses murailles, et Paris entouré de tous ses marais, notamment autour de Saint-Denis, est quasiment infranchissable et imprenable pour une armée de cavaliers. Donc c'est un épisode que je raconte dans mon livre. Geneviève dit aux Parisiens, mais surtout, ne partez pas, vous êtes en sécurité ici. Il fallait voir un peu loin, elle a vu loin, et l'Église en a tenu compte.
Oui, je rappelle que votre livre, Les Eaux Barbares, en fait, c'est l'histoire d'un ambassadeur romain qui s'appelle Antonin et qui va justement chercher à mobiliser contre Attila, contre les Huns, tout ce que peut compter l'Empire romain d'anciens barbares. Hein. D'ailleurs, on va les retrouver justement. Quand Attila lève le siège de Paris, il se précipite sur Orléans. Là, il va prendre la ville, hein, elle est moins bien défendue que Paris. Il la ravage encore une fois. Et là, ça a été encore un massacre.
Là, c'était ça a été un semi-massacre parce que, heureusement pour Orléans, l'armée de secours, en fait, le but d'Attila, c'était d'écraser les Visigoths, de prendre Orléans, d'écraser les Visigoths qui étaient au sud, avant de se porter contre les troupes romaines et gallo-romaines. Et en fait, ses troupes sont arrivées le jour où il a investi Orléans. Ses troupes sont arrivées de l'autre côté, et donc on libérait Orléans. Et à ce moment-là, Attila commence une immense retraite vers l'est, car il a du butin, car pour une fois, face à lui, il a une armée fédérée, c'est-à-dire les Romains, les Gallo-Romains, les Visigoths, quelques Alains, les Armoricains, donc une espèce de confédération pré-européenne.
Et en face de laquelle, donc, il va se retrouver avec, justement, notamment en face des Visigoths de Théodoric et en face des Romains de Aécius, hein, toujours lui, il va se retrouver, donc, dans une des plus grandes batailles de l'histoire, les champs cataloniques.
Visigoths, la terre où nous nous battons vous appartient. Défendez-la ou bien elle ira à Attila. Romains, vous aussi battez-vous pour votre pays. Car si nous perdons, Attila marchera sur Rome sans que rien ne puisse l'arrêter. Souvenez-vous de vos ancêtres. Joignez leurs forces aux vôtres. Ou bien, cette flamme qui éclaire la vie des hommes depuis des siècles sera balayée pour toujours.
Attila, où étais-tu? On t'a cherché partout.
Que se passe-t-il?
Aécius a stoppé sa retraite. Il a pris position à 10 lieues d'ici, près d'un village appelé Chalon.
Et moi qui croyais que les dieux de la guerre ne me feraient pas de signe. Il n'y a pas de meilleur signe qu'un ennemi prêt à se battre.
Et c'était donc dans cet extrait de téléfilm La bataille des champs cataloniques, la première, je crois même la seule défaite d'Attila, Marc Villan, mais la plus importante, et d'ailleurs une des plus grandes batailles de l'histoire, on l'a un peu oublié, c'est au 5e siècle, c'est près de Chalon, mais ça a été épouvantable, c'était une immense bataille, et décisive.
Ça a été une immense bataille, ça a été une bataille symbolique, parce que c'est un peu la bataille du chrétien contre le non-chrétien, c'est un peu la bataille du sédentaire contre le nomade, c'est un peu la bataille du civilisé contre ce qu'on ne connaît pas,
le barbare.
Et donc ça a donné une résonance extraordinaire à cette bataille qui a été décrite. Alors elle a été décrite un peu malheureusement bien après, si bien que tous les textes qu'on a sur cette bataille datent de 50, 70 ans, 80 ans.
Parce qu'on parle de 160 000 morts en un jour. Dans ces cas-là, c'est pire que Verdun qui en a fait 1 million, mais en plusieurs mois.
Oui, alors...
Enfin bon, avec ce qu'on peut savoir de l'époque et des chiffres de l'époque.
Voilà. Alors, elle a duré un peu plus longtemps qu'une journée, puisque il faut imaginer des armées de cavaliers qui se déplacent, des tribus, un combat peut avoir s'être terminé dans un coin et continuer dans un autre. Hein. Alors, certains historiens contestent ces chiffres. Cela dit, les chiffres qu'on a, c'est ceux-là.
En tout cas, Attila, il n'avait jamais connu ça de sa vie, recule, hein, il se replie, il retourne en Pannonie. L'année suivante, on était en 451, l'année suivante, en 452, il envahit le nord de l'Italie, et là, il va directement vers Rome. Il y a un épisode assez étonnant, parce qu'en arrivant dans le nord de l'Italie, il fait fuir évidemment tout le monde avec ses uns, et notamment c'est de là qu'est née, je crois, la ville de Venise, avec des populations du nord qui se sont réfugiées dans la lagune pour échapper à Attila. Et là, il fait encore demi-tour, parce que en face de lui, qu'est-ce qu'il trouve? Le pape Léon Ier, qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il a proposé un tribut, et c'est comme ça que Attila est revenu dans son pays.
Alors il y a plusieurs choses. Les troupes d'Attila faisaient une chaleur accablante et elles étaient donc décimées par la dysenterie, un certain nombre d'épidémies. Deuxièmement, elles avaient connu un succès extraordinaire, et comme ce sont des pillards, comme ce sont des nomades, ils sont chargés de butin, et ce butin, faut bien en profiter. Et puis troisièmement, on peut dire qu'Attila, qui n'était donc pas le barbare qu'on a décrit, avait un certain respect pour les hommes de foi, et on peut penser que le pape Léon le Grand lui a fait une forte impression. Et puis il y avait cette vieille superstition, depuis la prise de Rome par Alaric le Gaulois, qui était mort quelques mois après, que cette ville, c'était une ville tellement sacrée qu'il fallait pas y toucher.
Et pourtant, ça tombera, elle tombera 20 ans après Attila. Alors Attila donc rentre en Pannonie, il meurt le soir de cette nuit de noces, dans des conditions plutôt mystérieuses. On dit qu'il aurait été empoisonné. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce royaume, cet homme qui a terrorisé l'Europe pendant 10 ans, et ce peuple léen, tout ça s'évapore, ça s'évanouit, ça disparaît de l'histoire en quelques années.
Oui, ça disparaît de l'histoire. Alors, ce qui explique d'ailleurs un peu le grand succès, mais aussi l'arrêt de toutes les campagnes d'Attila. On voit bien que ces uns sont très difficiles à fédérer, très difficiles à regrouper, que ce sont des tribus et qu'ils n'ont donc pas de véritable conscience nationale. Attila, peut-être, avait une conscience de ce que c'était les uns, mais les uns, entre eux, ils assassinent son fils quelques années après, pas forcément. Alors, après, ce qui reste, effectivement, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, et c'est celui qui a pu battre l'Empire romain d'Orient, battre l'Empire romain d'Occident, avec quelques poignées de cavaliers. Mmh. Hein. Et c'est un peu l'image du fléau de Dieu dont se servait Attila, parce que le fléau de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui annonce la fin du monde. Donc, En s'appropriant cette histoire-là, Attila avait encore moins besoin de verser le sang de ses hommes, puisqu'il terrorisait d'avance ses ennemis.
Et c'était la fin, en tout cas, de l'Empire romain, parce que certes, c'est pas les uns qui l'ont finalement fait tomber. Hein, il tombe entre les mains le dernier empereur, Romulus Augustule, abdique en 476. Ce sont les Allemands d'Odoacre, enfin les Germains d'Odoacre, qui deviennent les maîtres de l'Italie, les Visigoths de l'Espagne, les Francs de la Gaule, les Vandales en Afrique du Nord. Les uns, eux, disparaissent de l'histoire, mais c'est vrai qu'ils restent encore assez présents. Vous l'aviez dit, Marc Villan, hein, je répète, ne serait-ce qu'en Hongrie, c'est un héros national.
Oui, et puis il y a un petit pied de nez de l'histoire, c'est que on a parlé de ce lieutenant de Romain d'Attila qui est Oreste et qui est donc le père de Romulus Augustus, parce que quand Attila disparaît, cet homme exceptionnel, ces lieutenants rentrent à nouveau dans l'Empire, et il y a aussi l'autre lieutenant, le grec Onégès, qui va être le père d'Odoacre, qui va déposer le dernier empereur. Donc, un homme exceptionnel qui a fédéré autour de lui des hommes exceptionnels.
Et un homme que l'on retrouve dans votre roman historique, Les Eaux Barbares, qui a été publié donc aux éditions France Empire. Marc Villan, merci. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Attila le 1 de Dick Laurie, disponible en DVD chez Universal Pictures. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Jean-Philippe Jeanne et Stéphane Goridin. Documentation Claire Destacan, Claire Tessier et Cédric-Joseph Julien. Une réalisation de Anne Kobilac.